France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Les romans changent-ils le monde ? Pendant 2 semaines, nous explorons 10 œuvres dont on peut assurer qu'elles ont changé quelque chose à la littérature et au 20e, voire au 21e siècle, en compagnie d'autrices et d'auteurs, de traducteurs et de traductrices et de spécialistes de la littérature ici et ailleurs. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous commençons notre voyage dans les romans qui ont changé le monde. Première station, 1926, année de la publication de « Sous le soleil de Satan » de Georges Bernanos aux éditions Plomb, dans la collection du Roseau d'or, dirigée alors par Jacques Maritain. « Sous le soleil de Satan », premier roman de Bernanos, premier chef-d'œuvre aussi, qu'il commence à écrire juste après la Première Guerre mondiale, dans lequel il explore la question de la sainteté et du mal. Pour en parler, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui 3 grands Bernanosiens, Maud Schmitt, François Angelier et Sébastien Lapaque. Mais commençons par nous remettre un peu le texte dans l'oreille. Écoutons un extrait de Sous le soleil de Satan, un extrait du prologue lu par la comédienne Élodie Hubert.
Déjà, elle échappait, sautait sur une chaise qui s'effondrait, puis de là sur la table. Mais ses hauts talons glissèrent sur le noyer ciré. En vain, elle étendit les mains. Celle du marquis l'avait saisie à la taille, la tirait vivement en arrière. La violence du choc l'étourdit. Le gros homme l'emportait comme une proie. Elle se sentit jetée rudement sur le canapé de cuir. Puis une minute encore, elle ne vit plus que 2 yeux, d'abord féroces, où peu à peu montait l'angoisse, puis la honte. De nouveau, elle était libre. Debout, en pleine lumière, les cheveux dénoués, un pli de sa robe découvrant son bas noir, cherchant en vain du regard le maître détesté. Mais elle distinguait à peine un grand trou d'ombre et le reflet de la lampe sur le mur, aveuglée par une rage inouïe, souffrant dans son orgueil plus que dans un membre blessé, d'une souffrance physique, aiguë, intolérable. Lorsqu'elle l'aperçut enfin, le sang rentra comme à flot dans son cœur. « Allons, mouchette, allons !» disait le bonhomme, inquiet. Parlant toujours, il s'approchait à petits pas, les bras tendus, cherchant à la reprendre sans violence, ainsi qu'il eût fait d'un de ses farouches oiseaux. Mais cette fois, elle échappa. « Qu'est-ce qui te prend, mouchette ?» répétait Cadignan d'une voix mal assurée. Elle l'épiait de loin, sa jolie bouche déformée par un rictus sournois. « Rêve-t-elle » pensait-il encore. Car ayant cédé à un de ses emportements de colère, d'où naît soudain le désir, il se sentait moins de remords que de confusion, n'ayant jamais beaucoup plus épargné ses maîtresses qu'un loyal compagnon qui tient sa partie dans un jeu brutal. Il ne la reconnaissait plus. « Répondras-tu ? » s'écria-t-il, exaspéré par son silence. Mais elle reculait devant lui, à pas lents. Comme elle fuyait vers la porte, il essaya de lui barrer la route en poussant son fauteuil à travers l'étroit passage. Mais elle évita l'obstacle d'un saut léger, avec un cri de frayeur si vive qu'il en demeura sur place, haletant. Une seconde plus tard, alors qu'il se retournait pour la suivre, il la vit dans un éclair, à l'autre extrémité de la salle, dressée sur la pointe de ses petits pieds, s'efforçant d'atteindre quelque chose au mur, de ses bras tendus. « Et là, bas les pattes, enragé !» En 2 bonds, il l'eut sans doute rejointe et désarmée, mais une fausse honte le retint. Il s'approchait d'elle sans hâte et du pas d'un homme qu'on n'arrêtera pas si aisément. Car il voyait son propre Amerlès, un magnifique Hanson, entre les mains de sa maîtresse. « Et c'est voir, » disait-il en avançant toujours, « et comme on menace un chien dangereux. » La folle mouchette ne répondit que par une espèce de gémissement de terreur et de colère. En même temps, elle levait l'arme à bout de bras. « Imbécile, il est chargé, » voulut-il dire encore. Mais le dernier mot fut comme écrasé sur ses lèvres par l'explosion. La charge l'avait atteint sous le menton, faisant voler la mâchoire en éclats. Le coup avait été tiré de si près que la bourre de feutre suifée traversa le cou de part en part et fut retrouvée dans sa cravate. Mouchette ouvrit la fenêtre et disparut.
Bonjour, Maud Schmitt.
Bonjour Mathias Sénard.
Bonjour François Angelier.
Bonjour.
Bonjour Sébastien Lapac. Maud Schmitt, vous êtes l'autrice d'un ouvrage paru dans la collection des classiques Garnier en 2019, consacré aux récits apologétiques laïques, Barbey d'Orvilly, Blois et Bernanos. Vous êtes aussi l'éditrice pour Garnier Flammarion de la nouvelle édition commentée de Sous le soleil de Satan. François Angelier, les auditeurs de France Culture ont la joie de vous écouter chaque samedi soir que Dieu fait de septembre à juin dans l'émission Mauvais Genre que vous produisez. Vous êtes aussi chroniqueur de livres de poche au monde des livres et auteur vous-même, notamment d'une biographie de Georges Bernanos, Georges Bernanos, La colère et la grâce, qui vient de sortir en poche aux éditions Point. Vous avez aussi rédigé des avant-propos au roman de Georges Bernanos pour les éditions du Castor Astral, tout comme vous, Sébastien Lapac, qui êtes l'auteur d'une préface à Sous le soleil de Satan, justement pour ces mêmes éditions. Vous êtes journaliste au Figaro littéraire, nouvelliste, vous avez obtenu le prix Goncourt de la nouvelle, romancier, auteur d'essais, notamment pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de vivre et mourir. Avec Georges Bernanos, paru en septembre 2022 aux éditions de l'Escargot, mais aussi du magnifique Sous le soleil de l'exil, Georges Bernanos au Brésil, 1938-1945, paru en son temps aux éditions Grasset, Brésil, qui occupe une place centrale dans votre œuvre, Sébastien Lapac, comme dans la vie de Georges Bernanos. Bonjour. Je voudrais que nous revenions sur l'extrait du prologue que nous venons d'entendre. Cette première partie de Sous le soleil de Satan, où fait son apparition le personnage de Mouchette. À qui faisons-nous face lorsque nous regardons Mouchette, Maud Schmitt ?
Mouchette, déjà en tant que personnage, c'est une adolescente de 15 ans. Et là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, elle est face à un de ces instants décisifs où en fait son destin va se précipiter et elle va être jetée dans les bras de Satan. Face à Mouchette, on est face à un personnage de révolté, comme il y en a beaucoup dans les romans de Bernanos. Et ici, là, ce qu'on entend dans cet extrait-là, c'est vraiment la trajectoire qui est celle de beaucoup de personnages de révoltés et notamment de personnages d'adolescents dans d'autres romans de Bernanos, c'est-à-dire une trajectoire qui conduit tout d'abord d'un appel, d'un goût du risque, d'un goût de l'aventure, qui serait plutôt des qualités qui devraient la prédisposer à rencontrer la grâce. Mais faute de références transcendantes dans son univers familier, elle va se tromper de voie. Et elle va tout d'abord connaître la déception, en l'occurrence en la personne du marquis de Cadignan, qu'elle a cru être un partenaire crédible pour sa fuite et qui en fait se révèle être, comme elle le dit, un autre papa lapin. Et puis de la déception à l'humiliation, puisque là, la scène qu'on vient d'entendre, c'est une scène de viol, même si le viol fait l'objet d'une ellipse. Et cette humiliation-là, c'est elle qui va entraîner ensuite le désespoir, la haine de soi, et qui va la livrer à Satan.
Sébastien Lapac, sur ce personnage de Mouchette.
Oui, c'est vraiment une grande violence, comme vous venez de le dire, dans cette façon de se livrer à Satan, et en même temps avec quelque chose de double, c'est-à-dire que Bernanos est finalement un catholique romain très classique, il connaît son catéchisme et sa théologie, on ne choisit jamais le mal, hein, comme dit Pascal, même quand on se pampe, c'est pour trouver son bonheur, donc elle ne cherche que le bien. C'est pas un personnage, celle qui est très intéressante dans le cas de Bernanos, je pense que c'est pour ça que vous parlez, dans le cadre de votre émission, de romans qui ont marqué leur époque, c'est que le diable, il apparaît beaucoup tout au long du 19e siècle et jusqu'à Charles Baudelaire comme un personnage de comédie. Hein, c'est le Faust de beaucoup d'opérettes. Et alors chez Charles Baudelaire, il commence à devenir très sérieux, comme vous le savez, sans doute, mais nous pouvons l'apprendre à nos auditeurs. C'est une des références très importantes pour Georges Bernanos. C'était un diable qui n'est pas un diable de comédie. Or, tout le 19e siècle, ça commence avec Cazotte à la fin du 18e, et je vous parle des opérettes avec le petit Faust, Monsieur Faust, enfin toutes sortes de... Là c'est quelque chose de très sérieux. Et c'est-à-dire que quand on se jette dans le mal, on cherche le bien. Et c'est très beau parce qu'en fait, un peu avant la scène dont on a entendu la lecture, l'amant de Mouchette a peur parce que Mouchette sous-entend qu'il entend les pas de sa femme et lui dit « tu as plus peur de ta femme que du diable ». Donc elle sait bien le pouvoir maléfique du diable. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, Bernanos a cette formule géniale quand il la qualifie de Sainte Brigitte du néant. C'est-à-dire qu'il y a une sainteté pour Bernanos, les saints et les débauchés extrêmes. Donc elle est meurtrière, c'est pas une débauchée extrême, elle est meurtrière et elle se livre au désespoir. Elle fait rien de plus que ça dans ce livre, parce qu'elle est presque une amante victime. Hein, elle est pas. Et donc en fait, Sainte Brigitte du néant, c'est-à-dire qu'en fait, l'enfer aussi a ses cloîtres, hein, vous connaissez cette expression, c'est-à-dire qu'elle est en quête d'absolu. Et alors, je me permets quand même de parler de la deuxième Mouchette, parce que vous me connaissez, je suis obligé d'en parler de la deuxième, hein, de la Mouchette, de la nouvelle histoire de Mouchette, qui n'est pas la même Mouchette, mais dont Bernanos lui-même disait qu'il ne pouvait pas lui donner d'autre nom que Mouchette, qui elle-même subit un viol, et elle-même va essayer d'aller dans un absolu, où là, Bernanos, peut-être, avec des maîtrises romanesques supérieures, puisqu'il écrit ce texte en 36, je crois, il paraît en 37, hein, c'est ça. Et il écrit au moment de la publication du journal de la curée de campagne, et il paraît en 37. La deuxième Mouchette, on ne sait même pas, dans le fond, si l'absolu qu'elle cherche, si c'est un absolu du bien, ou dans lequel elle tombe en roulant dans l'eau et en se noyant, parce que les deux Mouchettes se suicident. J'ai compté, le premier, je crois qu'il y a, dans les 8 romans de Bernanos, il y a 12 suicides. Ça rigole pas avec la vie et la mort.
On y reviendra tout à l'heure.
Et voilà, donc cette Mouchette, je voulais dire, c'est que cette fuite, elle se livre à Satan, mais ce qu'elle cherche, c'est un absolu d'amour.
Et François Enjolier, alors, à quel moment est-ce que Bernanos commence à avoir l'idée de ses personnages? Quand est-ce qu'il commence à rédiger Sous le soleil de Satan? Est-ce qu'il le fait dans l'ordre? Est-ce que c'est effectivement prologue ça. Qui commence l'écriture? Puisque le roman est coupé en deux, en fait, en réalité, même en trois. Mais en tout cas, il y a cette première partie qui est cette triste histoire de Mouchette dont nous venons d'entendre la conclusion, presque, de la fin de ce prologue. Et puis, ensuite, on passe à l'abbé de Nice. Et on retrouvera Mouchette par la suite. Mais au moment de l'écriture de Sous le soleil de Satan, est-ce que Bernanos a déjà le projet de l'ensemble du livre? Est-ce qu'on
ça,
le sait?
Ça reste très difficile à déterminer, puisque c'est un roman, donc on l'a dit, paru en 1926, composé de trois parties. L'histoire de Mouchette, la tentation du désespoir et le sein de l'imbre. Et on ne sait pas véritablement, de manière assurée, quel était l'ordre de rédaction et de composition des trois parties. Ça reste quand même un peu mystérieux, puisque l'abbé Donissant est présent. Alors, l'histoire de Mouchette, c'est un prologue, hein, c'est pas une partie. L'abbé Donissant, lui, est dans les deux autres parties, la tentation du désespoir et le sein de l'imbre. C'est le même personnage dont on suit l'évolution à la fois interspirituelle, les combats spirituels, l'évolution sociale à l'intérieur du monde ecclésiastique. Alors, on pense que c'est la troisième partie qui nous montre un abbé Donissant configuré un peu comme le curé d'Ars, c'est-à-dire un curé qui, au départ, n'a aucune espèce d'avantage particulier, mais dont le charisme de saint la mystique propre commence à rayonner autour de lui. Ça se voit, il commence par aller visiter les paysans dans les fermes, et puis après il devient un confesseur charismatique. C'est le cas du curé d'Ars, qui est le modèle. Donc le curé d'Ars, il faut bien savoir qu'à l'époque, à Lyon, dans la gare de Lyon, il y avait un guichet spécial curé d'Ars. C'est-à-dire qu'on venait de loin pour se faire confesser, pour voir le saint. Donc le troisième volet, c'est ça, c'est cette espèce de figure qui à la fois fascine les croyants qui vont se confesser, qui vont demander à la fois le pardon de leurs fautes et chercher plus encore, et puis les curieux, parce qu'il y a le fameux académicien, là, dont on pense, et le modèle est Anatole France, Saint-Marin, qui vient dans le but de faire un roman pittoresque, voir quel est ce curé de campagne mystique qui fascine tout le monde. Donc, on pense à cette troisième partie comme étant la première, mais il y a quand même une indication donnée par Bernanos, lui qu'on n'a pas donné tant que ça sur l'histoire de la conception de ses romans, c'est qu'il avait rendu visite à sa sœur à Berck, dans l'hôpital où il avait vu notamment une sœur qui était dans une sorte de gouttière de plâtre totalement paralysée. Berck plage, c'était là où étaient les tuberculeux, les grands malades, on les mettait au bord de la mer pour que l'air de la mer les régénère tant qu'il était possible. Et là, il dit qu'il a eu la vision, brusquement, un soir comme ça, du personnage de Mouchette qui a échappé, ou qui brusquement est passé dans une sorte de lumière intérieure, et qui peu à peu a enclenché la rédaction du texte. Mais on n'a pas un récit précis de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bernanos, pour écrire, descendait très profondément en lui-même dans une espèce de nuit intérieure, et il attendait là que les lumières commencent à briller, que les personnages naissent, et que bon, il arrache quelque chose à cette espèce de matière noire, quoi. Et Mouchette semble être au départ.
Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, qu'il faut préciser, parce que le personnage inspiré par Anatole France, qui vient comme un positiviste regarder un saint comme une bête de foire, c'est déjà un adieu à Maurras, parce que c'était l'auteur préféré de Maurras, Anatole France. D'ailleurs, Maurras, la fameuse photo où on voit Maurras se battre en duel à l'épée, c'est parce que quelqu'un avait insulté Anatole France. Et comme vous savez, à l'époque, quand vous étiez d'un certain âge, vous aviez le droit de déléguer quelqu'un pour vous défendre. Et Bernanos, c'est ce qui méprise le plus. Donc c'est très intéressant, quand on s'interroge, puisqu'on parle d'un écrivain qui est aussi un parcours politique, de savoir que, dès ce premier roman, il ridiculise le positivisme. Donc il ridiculise Maurras. J'ajouterai une autre chose aussi, c'est que dans cette dernière partie, peut-être première partie, inspirée, où on voit ce saint inspiré, évidemment, par le curé d'Ars, il y a une très très forte dose d'anticléricalisme. Quand on voit Et ça, il faut le dire à nos auditeurs, parce que quand même, se dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous parler d'un écrivain catholique, mais enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de soutane et de curé. Il y a un anticléricalisme quand les deux prêtres marchent, parce que les deux prêtres marchent sur la route, en train d'aller voir le saint eux-mêmes comme une bête de foire, parce que eux-mêmes ne croient pas à la sainteté. Pas plus que le positiviste, la Bernanos.
C'est on le verra tout à l'heure. Ouais, effectivement,
c'est une violence à la Léon Blois, en disant, mais même les curés eux-mêmes n'y croient pas. Donc c'est très intéressant et très ironique. Donc j'ai, dans cette fin, tout l'esprit du Bernanos des années 30 ou des années 40, on va dire, tiens, c'est bizarre, Bernanos, il a changé. Il n'a pas changé du tout. Toute sa rage contre la bourgeoisie positiviste et le clergé matérialiste, à travers le curé qui ne comprend rien à son saint. En fait, c'est comme, vous savez, il y a eu un film très bon avec Vincent Lindon où tout d'un coup, il y a une fille qui voit la Vierge Marie, l'apparition, je crois, c'est ça. Et tout d'un coup, tout le monde... Et en fait, les plus emmerdés, c'est l'Église. Et ben là, c'est pareil. Donc, Bernanos, les plus embarrassés par le surgissement d'un saint au fin fond de la campagne française, c'est le clergé.
Absolument.
Maud Schmitt, puisque vous êtes aussi spécialiste, justement, de Léon Blois, de Barbey d'Orvilly, est-ce que Bernanos a justement ces textes-là présents au moment où il commence Le Soleil de Satan ?
Oui, tout à fait. Il rappelle très souvent que ce sont des influences très importantes pour lui. Barbey, on le retrouve justement beaucoup dans le personnage de Mouchette, qui est une héritière des diaboliques, par exemple. C'est-à-dire, justement, comme on le disait tout à l'heure, Bernanos est convaincu, comme Barbey, comme Baudelaire, que finalement les extrêmes moraux se rencontre, qu'il y a une réversibilité des extrêmes moraux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il le dit, le narrateur le dit dans Sous le soleil de Satan, il dit « Chacun de nous est tour à tour un criminel ou un saint ». Et donc Mouchette, elle incarne ça, c'est-à-dire qu'elle elle est une de ces héroïnes qui est capable de très grandes passions et qui donc est une grande criminelle comme elle aurait pu être une grande mystique. Et ça, ça caractérise aussi les personnages de Barbey. Dans une des nouvelles des Diaboliques, Barbey le formule très clairement en disant l'enfer, c'est le ciel en creux. Donc Mouchette, c'est très exactement ça qu'elle incarne. Et le regard que porte Bernanos sur son héroïne est d'ailleurs un regard qui n'est jamais un regard qui juge, qui ne condamne. Il ne condamne jamais cette héroïne-là. Il la regarde avec une certaine admiration. Tout comme les personnages de Barbey suscitent chez le lecteur une admiration qui est trouble moralement. Donc ça, c'est pour Barbey, oui, là, il est très présent. Pour Blois, Bernanos emprunte à Blois ce style quelquefois très véhément, justement, dans l'anticléricalisme.
Il l'a découvert au front. Mais il l'a probablement peu lu. En fait, c'est deux influences littéraires qu'il a revendiquées fortement, évidemment, vous avez tout à fait raison avec Barbey, et Balzac, hein. Et il avait lu probablement tout Huysmans, tout le cycle, il le disait dans ses années. Donc il est né en 1888, donc dans les années 1900-1905. Léon Blois, c'est comme Peggy, c'est probablement une influence postérieure parce qu'on lui disait, comme Dostoïevski, parce que après avoir écrit ce livre, les gens lui ont dit, parce que ce que vous disiez sur la façon dont les extrêmes moraux se rejoignent et c'est puissamment présent dans l'œuvre de Dostoïevski, et beaucoup de gens lui ont dit, vous êtes le Dostoïevski français. D'ailleurs, c'est ce que les gens pensaient en Allemagne, ce qu'on a dit beaucoup. Et il a lu Dostoïevski à ce moment-là. Mmh. On lui a beaucoup parlé de Léon Blois, et donc il a lu Léon Blois aussi, je dirais a posteriori. Et comme Peggy, il connaissait le Peggy de l'Action française, à savoir le Peggy de Jeanne d'Arc, mais il ne l'avait pas lu Notre jeunesse, Notre patrie, l'argent. Et ça, c'est le père Brugberger qui lui fait lire au Brésil. C'est vrai que les textes brésiliens des Sept Combats sont très très marqués par Peggy. Mais en effet, les auteurs auxquels on peut être tenté spontanément de leur attacher, Bernanos, il est comme ces personnages, souvent ils disent qu'ils ont une formation intellectuelle très simple, hein, que ce soit le cas du curé de Limbe, du curé de campagne. C'est pas une bibliothèque roulante, Bernanos. Hein. Il avait lu assez peu. Je crois que l'influence de Léon Blois sur lui, vous avez raison, il cite dans ses lettres de guerre en 1917,
oui, c'est ça.
À l'époque où il est sous la direction spirituelle d'un bénédictin qui s'appelle Dombès, il cite Léon Blois, mais je pense pas qu'il y ait eu une lecture... François Angelet pourrait mieux en parler que moi, entre les milieux catholiques et Léon Blois à cette époque-là, c'est quand même très séparé quand même. Hein.
Un peu de musique.
À Java, il était né une poupée si jolie qu'on eût dit un bijou ou un joujou qu'on adore et qui rend fou. Un étranger en passant la voyant lui dit, viens donc à Paris, ma jolie. Les plaisirs et les désirs te feront reine ou démon. jolie fleur de Java, viens danser, viens te donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcellent, ton doux chant émouvant nous appelle. Riquita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Étranger, toi qui m'as dit qu'à Paris je trouverai le bonheur, moi j'en meurs. J'ai gardé la nostalgie du ciel bleu de mon pays, à ce qu'ils m'ont fait souffrir au plaisir. Laissez-moi, je veux partir ou mourir. Cette nuit, un ange blond m'a chanté votre chanson. Riquita, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcellent, ton doux chant émouvant nous appelle. Riquita, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours.
Nous venons d'entendre la chanson Riquita, chanson de 1926 avec des paroles d'Ernest Dumont sur une musique de Louis Bénèche, ici interprétée par Lina Margie en 1961. La France de 1926, c'est la France du foxtrot et des danseuses balinaises, jolies fleurs de Java. Je voudrais que nous intéressions un peu à la réception de Sous le soleil de Satan. Comment est lue à l'époque Sous le soleil de Satan, Maud Schmitt?
Bah, Sous le soleil de Satan connaît un grand succès de librairie tout de suite à sa parution, mais qui est aussi un succès de scandale, parce que justement les milieux catholiques sont assez choqués par ce roman. Maritain et Valérie Radeau avaient tenté de convaincre...
Jacques Maritain, qui est l'éditeur du
livre.
Oui,
excusez-moi, voilà, qui est l'éditeur du livre, dans une collection qu'il vient juste de créer. Et donc, il prend un grand risque en publiant Bernanos, que personne ne connaît, dans une collection qui n'est pas encore très développée, qui vient de naître. Et donc, il demande à Bernanos d'adoucir un certain nombre de ses violences, d'éclairer aussi un peu plus le lecteur sur notamment la question du salut de Donissant, et de peut-être de tempérer un petit peu cette théologie très augustinienne, très pessimiste. Ce que Bernanos accepte de faire dans une certaine mesure, mais il y a aussi certaines coupes ou certaines transformations qu'il se refuse complètement à faire. Et donc, ça donne un roman qui est quand même un roman scandaleux et qui divise beaucoup dans les milieux littéraires et aussi dans les milieux catholiques. Mais c'est aussi ça qui fait le succès de librairie de ce livre. Donc, c'est un livre qui est très lu, qui connaît tout de suite un grand succès.
François Angelier.
Ah oui, ça a été un coup de tonnerre redoutable. Surtout, faut bien se représenter l'époque. C'est l'époque, effectivement, des années folles. C'est l'époque du surréalisme. C'est l'époque des Noailles, de l'avant-gardisme. La France se reconstruit. La France pense ses plaies. On pense à autre chose. On est dans cette espèce d'après-guerre totalement effervescente, avant-gardiste. Et arrive ce moine soldat, avec son curé en soutane râpé et son diable maquignon. Et là, brusquement, voilà, il arrive. C'est un peu la statue du commandeur. On est dans la fête, pas la fête impériale, mais la fête de l'entre-deux-guerres, et arrive cette espèce de figure totalement intimidante, personnage qu'on ne connaît pas, on sait simplement que c'est un Maurassien qui est inspecteur d'assurance, qui vit dans l'Est, personnage totalement inconnu, et il y a ce coup de tonnerre absolument redoutable, et la presse immédiatement s'en empare, et notamment il y a un article triomphal de Léon Daudet, qui avait aussi lancé Proust, et qui dit que Bernanos, ça fait partie des éléments importants de l'histoire littéraire à date récente, et vraisemblablement à date moins récente.
D'abord, il disait, je ne suis pas un écrivain catholique, je suis un catholique qui écrit des romans, dans une situation très paradoxale, parce que il avait quitté l'Action française en 1919 en pensant que c'était devenu un parti conservateur, alors que lui, il est d'une fidélité royaliste à la Barbé d'Aurevilly, très romantique, avec beaucoup plus d'admiration pour Saint-Louis sous son chêne que pour Louis XIV dévastant le Palatinat, ce qui était l'admiration de Maurras. Mais en fait, il y a la condamnation de l'Action française en 1926, c'est tout à fait étonnant de le rappeler, et donc Bernanos revient à l'Action française parce qu'il considère que la condamnation de l'Action française est un épisode supplémentaire du ralliement de l'Église au monde moderne, mais il jugera Vichy de la même façon, hein. Mmh. Toujours avec son regard extra-lucide. Tout arrangement pour lui est en fait une espèce d'acquiescement à la modernité, dans ce qu'elle peut avoir de stupide, et il a regardé le nazisme de cette façon-là. Et donc en fait, c'est un écrivain qui raconte des histoires de curés, parce que malgré tout, c'est ce que voient les gens. Et dans cette ambiance dont vous parlez, d'athéisme, d'une forme de débauche, etc., comment un écrivain racontant des histoires de curés en y croyant profondément, en croyant que l'angoisse c'est la foi et que le salut et la damnation c'est quelque chose de très sérieux dans une aventure humaine, peut-il avoir du succès? Parce qu'il est dans une situation paradoxale, parce qu'il vient de se rapprocher de l'Action française cette année-là de 1926, il s'éloignera définitivement en 1932, donc sa deuxième séquence Action française est finalement assez courte, de 6 ans, et j'ai parlé de son anticléricalisme tout à l'heure, oui, qui éclate, c'est en plus un catholique anticlérical, donc en fait il était aussi lisible par celui qui croit au ciel que par celui qui n'y croit pas, parce que c'est un catholique qui sent le fagot. Et là, je prolonge ce que vous disiez sur le fait qu'il est mal reçu dans les milieux catholiques. Il est accusé de deux choses. De jansénisme, dont vous avez parlé, de la théologie augustinienne, à la certitude d'une élection, qui laisse très peu de place à la liberté humaine. Donc ça, c'était la morale de ce que Bernanos nommait lui-même les abominables jésuites. Donc la liberté humaine ne semble pas avoir beaucoup de place dans le bien comme dans le mal. Et de manichéisme. Le jansénisme, à mon avis, l'accusation ne tient pas, parce que le livre, il y a des éléments de théologie augustinienne, mais enfin, ce n'est pas du Pascal mis en roman, ni les confessions de Saint-Augustin mis en roman. Il n'y a pas tant d'éléments de détermination. Par contre, la question qui va se poser, et d'ailleurs, c'est intéressant de penser que Bernanos n'ira jamais aussi loin, sauf peut-être dans Monsieur Wynne, mais d'une façon très différente, ne donne-t-il pas trop de pouvoir au diable?
Oui.
Et dans la théologie catholique, c'était quand même un problème. Le fameux singe de Dieu, tel qu'il est défini, ce singe de Dieu a-t-il une espèce d'autonomie d'action indépendamment du geste créateur de Dieu?
Mais ça, c'est des questions théologiques qui sont posées à l'époque, François.
Ah oui, oui, oui.
Oui, absolument. Alors, il faut savoir quand même que la collection dans laquelle paraît Sous soleil de Satan, c'est donc le Roseau d'or de Jacques Maritain chez Plon. C'est une collection qui incarne au mieux, je dirais, la renaissance d'une sorte de catholicisme intellectuel et littéraire, où on trouve aussi bien Reverdy, Claudel, Chesterton, avec notamment des fois des volumes de chroniques qui recoupent des articles. Donc, c'est les noces, je dirais, la manière de renouer entre la littérature et un catholicisme qui est, je dirais, orthodoxe, puisque Maritain, donc thomiste, ancien professeur à l'Institut catholique de Paris, très bien vu à Rome, et puis en même temps l'avant-gardisme intellectuel, c'est ça Maritain, je veux dire, c'est une théologie traditionnelle qui est celle de l'Église, avec cet avant-gardisme intellectuel qui est celui de Claudel, parce que nous on a une image de Claudel, l'ambassadeur machin, mais bon, à l'époque c'est quand même le Sous soleil de Satan, quelque chose de totalement avant-gardiste, et puis également pour Reverdy. Bernanos arrive là-dedans et crée un autre problème, puisqu'il ouvre un troisième front. On parlait, Sébastien, c'est cette espèce de figure de curé qui peut être à la fois janséniste par l'idée de l'élection, par l'idée qu'il a été choisi et qu'il va connaître l'enfer des élus, si j'ose ainsi m'exprimer. Et puis, le manichéisme, avec cette volonté d'autonomiser la figure du malin, auquel il donne une forme et une liberté d'action totale. Parce qu'en plus, effectivement, on l'a dit au début, ça n'est pas le diable romantique, qui est un diable méphistophélique, séducteur, fastueux, totalement flamboyant. C'est une espèce de diable quotidien, un peu terne, et puis qui dévoile ses sortilèges brusquement. C'est le cas du Maquignon, et ça explosera avec Monsieur Wynne, qui est un vieux prof d'anglais à la retraite, à l'agonie. Et donc là, Bernanos crée une sorte de choc bizarre, puisque on n'est pas dans le catholicisme et la littérature bien pensante, la Bonne Presse, Bayard Presse, les héritiers de Louis Veuillot et tout ça. Bon, il y avait des auteurs pour ce public catholique totalement bourgeois, conservateur et bien pensant. Il y avait aussi un autre catholicisme qui est celui de Barbet, et Bernanos crée un peu la panique là-dedans, puisqu'il invente encore autre chose.
Et j'ajouterais surtout, puisqu'il y a une œuvre de combat qui illustre ça, qui fait ça au moment où Hitler surgit dans l'histoire.
Oui.
Celui qui va dévaster l'histoire européenne comme le diable lui-même. Et en fait, le seul à croire au diable, presque, j'exagère quand je dis Bernanos était le seul à croire au diable, en tout cas à faire un roman, le meilleur scène, c'est Georges Bernanos, et le premier à comprendre tout de suite le phénomène Hitler, c'est aussi Georges Bernanos. C'est-à-dire qu'en plus, il y a quand même une espèce de choc temporel. Au moment où paraît ce livre, il y a un diable temporel qui surgit dans l'histoire.
Revenons au texte et écoutons un second extrait de Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos, toujours lu par Élodie Hubert.
Le vicaire ouvrit les yeux. Un moment, son regard attentif épia chaque angle de cette chambre inconnue. Puis se reportant sur le visage familier du doyen exprima d'abord une surprise grandissante. Tout à coup, ce regard tomba sur la large échancrure de la soutane et les linges ensanglantés. Alors l'abbé Donissan, se rejetant vivement en arrière, cacha sa figure dans ses mains. Déjà, celle de l'abbé Menou-Segret les écartait doucement, découvrant la rude tête d'un geste presque maternel. « Mon petit, notre Seigneur n'est pas mécontent de vous, » fit-il à voix basse, avec un indéfinissable accent. Mais reprenant aussitôt ce ton habituel de bienveillance un peu hautaine dont il aimait à déguiser sa tendresse, « Vous jetterez demain au feu cette infernale machine, l'abbé. Il faut trouver quelque chose de mieux. Dieu me garde de parler seulement le langage du bon sens. En bien comme en mal, il convient d'être un peu fou. Je fais ce reproche à vos mortifications d'être indiscrète. Un jeune prêtre irréprochable doit avoir du linge blanc. »
France Culture, les romans qui ont changé le monde. Mathias Sénard.
Maud Schmitt, nous venons d'entendre un second extrait de Sous le soleil de Satan, ce moment où justement l'abbé Donissan, dans cette quête de la sainteté, se mortifie en utilisant des méthodes qui paraissent absolument archaïques à cet autre prêtre. Comment est née cette idée de, est-ce qu'on a des traces ou des lettres du chemin de Donissan, justement, chez Bernanos? Comment est-ce qu'il a pensé l'évolution de ce personnage?
Alors, je ne sais pas comment il a pensé l'évolution de ce personnage. En tout cas, ce qui apparaît là, c'est vrai dans cet extrait, c'est que on voit un personnage de saint qui n'est pas du tout un saint évanescent, éthéré, désincarné. Au contraire, là on l'entend bien dans le roman, la question du corps, c'est une question qui est centrale dans la construction de son personnage. C'est un personnage qui est physique, qui a une corporéité très 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 présente. Et là, on le voit avec donc ce sang qui perce à travers sa chemise, les mortifications qu'il se donne. Un petit peu après, dans le roman, on voit Donissan dans sa cellule en train de s'infliger cette discipline. Et c'est des scènes très violentes, avec du sang qui jaillit, avec quelque chose de très repoussant pour le lecteur. Et donc ça participe, je pense, à la fois d'un effet qui est recherché par Bernanos, qui est un effet de choc, un effet de violence sur son lecteur. Mais ça participe aussi du désir de représenter un monde qui est un monde réaliste, qui est un monde incarné, afin que le lecteur reconnaisse vraiment que finalement ce surnaturel qui apparaît dans le roman, il apparaît dans un monde qui est le sien, dans un monde qui est le monde des corps, le monde de la matière. Et ça participe de sa stratégie de persuasion, puisque le lecteur du coup est amené à se dire « Ah finalement, le surnaturel, c'est quelque chose de très quotidien, tangible presque. »
Mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas du tout à la mode à ce moment-là. On a l'impression que c'est revenir. Enfin, d'ailleurs, les prêtres autour de l'abbé Donissan sont absolument
bien
choqués
sûr,
qu'on en revienne à ces pratiques
sûr.
Tout à fait médiévales.
C'est un saint qui fait scandale, c'est un prêtre qui fait scandale. Et le doyen, Menou-Segret, ne cesse d'essayer de le tempérer en lui disant « Je sais bien que vous êtes un saint, je sais à quoi vous êtes appelé. Mais tenez compte de l'esprit du siècle dans lequel vous êtes. Le temps n'est plus aux miracles, le temps n'est plus aux apparitions du diable. N'en parlez surtout à personne de ce que vous avez vu, l'apparition du diable sous la forme d'un maquignon sur le chemin d'Étaples. N'en parlez pas, ne faites pas scandale, parce que ce que les gens aujourd'hui, et tout particulièrement les prêtres, redoutent, tout particulièrement les prêtres modernes, c'est la force et l'excès. Or, Donissan, c'est justement un saint de la force et de l'excès.
Mais là, il y a beaucoup d'ironie de la part de Bernanos. Hein. Bernanos avait été, dans sa jeunesse, très actif contre le modernisme. Parce que nous, quand on parle du modernisme, on pense souvent au Concile de Vatican II. Mais il faut savoir qu'en 1900, il y a une crise très très violente qui a secoué l'Église. Même Mauriac avait été touché. Il y avait des prêtres qui prônaient la non-divinité de Jésus-Christ en le présentant... comme ça pourrait d'ailleurs dans une idée de développement personnel, comme un philosophe utile. Mmh. Et ça va vraiment secouer l'Église. Alors c'est drôle parce que on pense beaucoup quand les gens parlent de ce qui a secoué l'Église catholique au Concile Vatican II aux années 60, mais aux années 1900, ça a été quelque chose de terrible. Et Bernanos, vu qu'il était d'une famille à la Barbé d'Aurevilly, catholique et royaliste, old school, ils ont été très engagés contre ça. Et donc, en fait, ce qui lui a plu d'ailleurs dans l'Action française, c'est la critique du modernisme. Et là, vous avez tout à fait raison dans ce que vous allez dire, mais chez Bernanos, il y a une ironie sur le modernisme.
pour ce qu'on sache de sa propre pratique, de sa propre vie religieuse, il semble pas qu'il soit infligé les disciplines. Hein. Non, mais vous parliez du Moyen-Âge, Mathias, bon, Pascal avait une cilice, portait une cilice, et donc en fait, à Port-Royal, les gens s'infligeaient les disciplines, mais Bernanos le savait peut-être, mais c'était probablement pas sa spiritualité qui est une spiritualité assez sereine, hein, personnellement. Mmh. Il récitait son chapelet,
mais on a l'impression
comme,
c'est...
comme une bigote, comme il le dit lui-même, il lisait la messe tous les jours, et s'est accompli le soir, il avait une espèce de tranquillité dans sa pratique religieuse, qui n'est pas celle de l'abbé Donissant. Oui. Il force un peu dans l'épouvante. Alors, on en revient à Maritain et même à Massis, hein, qui a participé à l'édition du livre. Ouais. Vous savez que Henri ça, c'est très intéressant pour ceux qui veulent s'y pencher. C'est qu'un universitaire américain, enfin américano-canadien, qui a beaucoup fait William Bush, a fait une édition du manuscrit des épreuves de Sous le Soleil de Satan. Et Maritain a fait couper beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire que le livre est apparu... En plus, ça a apparu chez Plon en 1988, si je me trompe pas. C'est pas du tout un travail universitaire anglo-saxon difficile à trouver. Toute personne qui serait intéressée trouvera facilement ce livre dans une bibliothèque. Il y a eu énormément de coupes. Le livre a passé pour hérétique à sa parution. Et il y a des coupes. Les coupes de Maritain, parce que Maritain, effectivement, comme l'a très bien expliqué François Joliet, c'est un peu le néo-thomiste homme d'appareil, voilà, ouais. Ami des papes, ami de Rome, et il essayait,
mais en Stravinsky.
Même et essayant quand même de concilier tout le monde, comprenant le génie de Bernanos, mais voulant pas trop fâcher l'institution, alors que Bernanos est un anticlérical à un degré extrême, donc il parle jamais du pape d'ailleurs.
Mais ce qu'il y a quand même d'extrêmement fascinant dans l'abbé de Nissan, c'est justement c'est son parcours, c'est-à-dire que c'est presque un manuel de sainteté. Quand même sous le soleil de
l'abbé Donissant, je lui ai dans l'évangile, il est question de la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs et dont Dieu fait une pierre d'angle. Cette merveilleuse définition de l'abbé Donissant. L'abbé Donissant, c'est vraiment le crétin. On le met au séminaire parce qu'on sait pas trop quoi en faire. Il n'a strictement aucun talent intellectuel. Il a aucune capacité d'intelligence particulière. Bon, il rame comme un malade pour ses études de théologie. On finit par, devenir prêtre. Mais on sait pas très bien quoi en faire, quoi.
Comme le curé d'Ars.
Là, voilà,
de ce point de vue-là, il est clairement inspiré par le curé d'Ars. Et le curé de campagne, là, je pense que Bernanos va quand même réussir à affiner le modèle de Donissant. Il avait peut-être encore une fougue adolescente, puis peut-être les images de la guerre. Il dit c'est un roman né de la guerre. N'oublions jamais ça, parce qu'on parle beaucoup des romans de Céline nés de la guerre ces derniers temps. Ce qui est vrai qu'un certain nombre d'images atroces qu'il y a dans Voyage au bout de la nuit sont nées de la guerre. Mais Bernanos a souvent dit que les images de Sous le Soleil de Satan sont nées de la guerre. Donc il y a une violence qui est celle d'un ancien combattant. Bernanos avait été réformé, il s'est porté volontaire en septembre 1914, et il a fait toute la guerre jusqu'en 19. Puisqu'il était dans la cavalerie, il a été démobilisé un peu plus tard. Et donc il ne l'a pas faite comme Genevois dans l'infanterie, où là c'était bien plus terrible, mais il l'a faite dans la cavalerie comme Céline. Donc souvent on parle du caractère épouvantable de l'effet qu'a pu avoir cette Première Guerre mondiale sur l'âme de Louis-Ferdinand Céline. Bernanos était dans un régiment de cuirassés, non pas dans un régiment de dragons, et il était brigadier, il a fait la totalité de la guerre, il a été blessé, il a eu des citations, on a son livret militaire. Je vous dis pas qu'il a fait une guerre de première ligne comme Roger Vercel ou comme Maurice Genevoix, mais il a fait une guerre terrible, et donc il y a une violence dans ce livre, et c'est pour ça qu'on en revient à 1926, cette ambiance un peu du Paris des années folles dont vous parliez, Mathias. Est-ce qu'en 1926 on regarde un peu la guerre, on s'en souvient, ou est-ce qu'au contraire on l'oublie en allant dans autre chose? Bernanos il s'en souvient, et je pense qu'il va affiner cette vision qui ne changera pas dans le journal de curé de campagne, où c'est un peu plus arrondi, et de fait les accusations d'hérésie des abbés démocrates contre Bernanos au moment de Sous le Soleil de Satan, il est à la limite de l'orthodoxie catholique. Faut pas se mentir. Et d'ailleurs, j'ai compris ça en lisant un très beau livre de José Cabanis, Mauriac, le roman et Dieu, qui explique pourquoi Mauriac a raté ses romans catholiques. Très, très bon livre. Et pourquoi Bernanos a réussi? Il dit parce que ça sent le fagot. Il dit un roman catholique doit un peu parler de Dieu, mais beaucoup du diable.
Maud Schmitt, Bernanos parle du diable, bien sûr, de Sous le Soleil de Satan, mais aussi de... justement la possibilité que le diable s'intéresse à nous. Et ce qui est très étrange dans Sous le Soleil de Satan, en tout cas cette vision du diable là, c'est que le diable c'est pas pour tout le monde finalement. Le diable c'est pour des gens d'exception, c'est pour Mouchette, c'est pour les saints, les bourgeois, les prêtres, finalement le diable c'est pas pour eux.
Tout à fait. En fait, la définition de la sainteté, elle est livrée à deux reprises dans le roman par une formule qui est citée donc deux fois, une formule de saint Paul, qui dit « Nul n'est tenté au-delà de ses forces ». Et ça définit très exactement le saint qu'est Donissant. C'est-à-dire que Donissant, il est exceptionnellement doué, spirituellement. Il est fait pour être un saint. Menou Segret le voit tout de suite en son vicaire, malgré le fait que ce soit un pâteau tout en noir, qui bégaye, qui n'a pas d'intelligence, pas de finesse. Et il est exceptionnellement doué, et puisqu'il est exceptionnellement doué, il est aussi exceptionnellement tenté. Il va rencontrer des tentations terribles, il va être la proie toute sa vie du diable. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette formule, elle est réversible. C'est-à-dire que le saint est exceptionnellement tenté parce qu'exceptionnellement doué. Mais dans ce cas, la petite criminelle qui est Mouchette, qui est exceptionnellement tentée, est elle aussi potentiellement exceptionnellement douée. Et donc elle aussi, elle est la proie de Satan. Satan s'est réservé les saints, ça c'est une phrase que prononce là encore Donizan lui-même, et se désintéresse complètement du troupeau, de la foule humaine qui vit toute sa vie à plat, au même niveau que sa mangeoire. Je cite là le texte. Il a des mots extrêmement durs pour justement toute cette masse anonyme, qui vit dans une espèce de pur déterminisme du mal, sans jamais en faire le choix, ni de la vocation, ni de la perdition.
Ce choix qui est impossible à faire. Alors ce mal, ce Satan, quand on le rencontre, c'est sous la forme d'un maquignon. Ah oui. Enfin, on est loin de Bulgakov, c'est pas du tout le Maître et Marguerite. C'est un maquignon qui a cette voix, d'abord qui vous guide dans la nuit, puisque l'abbé Donizan est perdu dans ses paysages de l'Artois. Il cherche son chemin, donc c'est quand même quelqu'un qui va essayer de vous prendre, de vous emmener sur ces chemins dans la vie.
Ça va même au-delà, parce que Donizan est parti suppléer un confesseur au-delà de Campagne. Campagne, c'est le nom du village. C'est le curé de Campagne, mais c'est pas encore celui qu'on connaît. Et donc, il rentre la nuit après son sacerdoce et il rencontre ce maquignon. Et avant la rencontre du maquignon, il y a un moment qui est véritablement diabolique sur le plan de la technique littéraire. Je me tourne vers mes camarades, là. C'est-à-dire que Donizan, non seulement s'égare, mais il échappe presque à l'espace-temps. C'est-à-dire qu'il entre dans un espace circulaire où il se met à tourner, où tout lui échappe. Il n'a plus de repères, il ne contrôle plus rien et il rentre dans une espèce de zone qui est une zone totalement incontrôlable où il est totalement perdu et égaré. Je veux dire, il sort vraiment de l'espace-temps. Mmh. Et c'est là où il rencontre le maquignon qui fait mine de le guider, de le passer sous les barbelés, de traverser des prairies, des espaces comme ça qui sont supposés connus et puis qui en définitive ne le sont pas. Et c'est là où commence le fameux dialogue. Mais l'idée d'avoir pris un maquignon jovial comme figure du diable, c'est tout à fait étonnant. Et ça, c'est très novateur, puisque c'est pas vraiment ce que j'ai dit. Non, c'est pas le diable séducteur.
Mais il y a une chose qui est importante chez Bernanos, c'est cette idée d'amis. De faux amis. Et il trouvera dans Monsieur Wynne une formule incroyable. Le diable, c'est l'ami qui ne reste jamais jusqu'au bout.
Ça, c'est génial.
Et le diable est un faux ami. Et c'est pas un adversaire, c'est un faux ami.
Voilà.
Et ça, c'est toute la théologie de Bernanos, elle est là. De ce point de vue-là, c'est pas manichéen. Et c'est pas si janséniste que ça. C'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui peut éclairer beaucoup de nos vies. Le diable est l'ami qui ne reste pas jusqu'au bout.
Mais ça, c'est une phrase elle est simple. Je veux dire, c'est ça qui est terrible chez Bernanos. C'est que plus c'est simple, plus c'est inquiétant. Et cette phrase, moi, elle m'a toujours fait froid dans le dos. C'est l'ami qui ne reste jamais jusqu'au bout. C'est-à-dire, on sent là, dans cette phrase, brusquement la conscience de la trahison. Et de l'effondrement. C'est effrayant.
Le dialogue est assez surprenant aussi. C'est-à-dire, ce que lui dit le maquignon, c'est une déclaration d'amour, mais qui va dans le sens du diable vers le saint, qui lui dit, te voilà comme tu m'aimes, mais comme tu m'aimeras mieux encore, car je ne suis pas prêt de t'abandonner.
Justement. Oh, ça se pourrait par l'évangile, ça. Hein.
Oui.
Mon chérubin, Goethe, tonsuré, vieux compagnon, pour toujours.
Voilà, c'est les rencontres du Christ au désert avec le tentateur. Hein.
Oui, mais là, justement, on ne voit pas très bien l'objet de la tentation, en réalité, à part ce baiser qu'il lui donne.
Bah, cette scène du maquignon, c'est une scène qui lui a été quand même beaucoup reprochée par la suite. Parce que Bernanos, ici, fait un choix. Il est face à une difficulté romanesque, qui est de représenter le diable. C'est très compliqué de faire un personnage du diable. Et il va avoir recours à une technique qui est le fantastique. C'est-à-dire que justement, il va placer Donizan dans cet état un peu incertain, où on ne sait pas trop s'il rêve, s'il est éveillé, s'il voit vraiment ce qu'il voit, etc. Et ça, c'est le truc qu'il trouve pour justement représenter ce qui normalement n'est pas représentable. Mais le problème, c'est que du coup, il va convoquer le diable sous la forme du maquignon et il va avoir recours à des codes littéraires. Parce que le diable, comme ça, qui apparaît, qui fait des cabrioles, qui donne le baiser de trahison, etc., c'est quelque chose qui a été beaucoup fait par la littérature frénétique au XIXe siècle, qui a été... Et donc, on lui a reproché, justement, en faisant du diable un personnage fantastique, d'en faire une convention littéraire et d'amoindrir, en fait, l'effet terrifiant de ce personnage. Voilà, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va ensuite, dans les romans ultérieurs, renoncer complètement au fantastique pour représenter le diable.
Écoutons Georges Bernanos lui-même nous parler d'âme.
L'homme moyen n'est nullement orgueilleux de son art. Il ne demande qu'à la nier. Il la nie. Avec un soulagement immense. comme on s'éveille d'un terrible mauvais rêve. Il croit découvrir qu'elle n'existe pas, avec une espèce d'incompréhensible fierté. L'inquiétude métaphysique chez l'homme moyen est presque tout entière dans cette négation sournoise, cette fierté, ces mille ruses qui ne tentent toutes qu'à déposer quelque part, n'importe où, cette âme, ce fardeau, cette conscience harassante du bien et du mal, pourvu que cette âme n'existe pas. Si elle existe par malheur, pourvu qu'elle ne soit pas immortelle. Bien loin d'être la consolante illusion des saints, des ignorants, la croyance à la liberté, à la responsabilité de l'homme, est tout au long des millénaires la tradition des élites. Elle est l'esprit de la civilisation même, transmise par les génies. Tout au long des âges, des milliards et des milliards d'imbéciles, des imbéciles sans nombre, en d'innombrables idiomes, ont répété d'un air entendu, quand on est mort, tout est mort. S'ils ne le disaient pas, c'est qu'ils n'osaient pas le dire, c'est qu'ils avaient honte de le dire. Ils préféraient se fier à de plus instruits qu'eux, aux sages. Mais, dès que s'affaiblit le prestige des sages, l'autorité des puissants, dès que fléchit la civilisation, les hommes de la masse recommencent à chercher un terrain vague, un coin de rue où perdent leurs âmes immortelles avec l'espoir que personne ne les leur rapportera. Et tout à coup, messieurs, le geste tenu jusqu'alors pour ignoble a été aussi celui des sages. Ce qu'on avait toujours regardé comme les gardiens de la plus haute tradition de l'espèce en refusait maintenant la charge, autant doute. Ils avaient à peine esquissé le geste de renoncement, mais c'était le geste que les masses attendaient depuis toujours, depuis l'exil du paradis. Les augures n'avaient parlé qu'à mi-voix, mais l'humanité moyenne, déjà frappée au cœur par le pressentiment des catastrophes prochaines, avide de s'en déclarer irresponsable, de les subir au lieu de leur faire face, prêtait l'oreille au moindre murmure.
Nous venons d'entendre Georges Bernanos lui-même dans une conférence de l'immédiate après-guerre. D'abord, c'est assez surprenant d'entendre cette voix, cette diction qui nous paraît venir tout droit d'un autre temps.
Il a la même voix
qu'Antonin
Artaud. Quand vous écoutez, pour en finir avec le jugement de Dieu qui a un an d'écart, c'est 47.
Là, 47,
c'est la conférence de Genève sur l'Europe, la civilisation. Il a la même voix qu'Artaud, cette espèce de voix incantatoire et profératrice.
Mais ce qu'il dit est extrêmement intéressant, parce que bon, là, on est donc presque plus de 20 ans après l'écriture de Sous le soleil de Satan, mais on voit cette question de l'âme, de ce mauvais rêve, justement, de la sainteté, cette âme, pourvu qu'elle ne soit pas immortelle, de contradiction qui me semble être là un des points importants de cette théologie bernanosienne si particulière à Montschmidt.
Oui, ici, effectivement, on entend la charge qui est habituellement la sienne contre la modernité, qui essaye d'éliminer complètement la question du surnaturel. Dans son interview célèbre là avec Frédéric Lefebvre, il a cette formule que je trouve très frappante. Il dit que la modernité a conclu au sujet du surnaturel le pacte des temps de peste, y penser le moins possible et n'en parler jamais. C'est-à-dire que c'est l'idée que on essaye de transformer, justement, de ne parler plus que du progrès, que de la très prochaine suppression du mal. L'enfer, évidemment, est une curiosité bonne pour les musées. Voilà, et donc, c'est cette prétention de la modernité à tout expliquer par la raison, à aplatir complètement les apparences que Bernanos dénonce ici, je crois, dans ce qu'il dit sur l'âme, de façon très ironique.
Ouais, ce qui est très intéressant, d'ailleurs, dans le texte qu'on a entendu, c'est que Bernanos, c'est une brève vie d'écriture, c'est 20 ans. Il commence en 1926, avec le livre dont nous parlons dans l'instant, écartons des articles de jeunesse, des nouvelles, et il meurt en 1948. Donc, c'est deux décennies d'écriture. On peut dire qu'il y a la première décennie principalement consacrée au roman. Il finit Monsieur Wynne en 1940, mais il l'avait quasiment terminé en 1936. En 1936, c'est l'année de ce qui est supposé être son chef-d'œuvre, Journal d'un curé de campagne. Et l'année suivante, il y a une nouvelle histoire de Mouchette. Et ensuite, de 38 au moment où il pose pied au Brésil jusqu'à 48, il va se consacrer à son œuvre de combat qui avait parfois été négligée. Donc dans la Pléiade, c'est clairement édité roman, essai écrit de combat. Et cette œuvre de combat de toute la période brésilienne qui commence avec La vérité qui est poursuivie avec Nous autres Français, ensuite avec Les enfants humiliés, édité postérieurement, La lettre aux Anglais, Le chemin de la croix des âmes, La France contre les robots, qui est un livre qui a beaucoup de succès aujourd'hui et beaucoup de nouveaux lecteurs. Ça, c'est son œuvre de combat dans laquelle il exprime ce qu'on vient d'entendre dans ce document sonore. Et c'est tout à fait intéressant parce que d'abord, c'est une grande tradition des écrivains français, Albert Camus, Jean-Paul Sartre, d'autres, d'avoir une œuvre romanesque et une œuvre de combat qui se complètent. Il a été, dans la littérature du XXe siècle, un de ces auteurs qui ont été capables d'être un puissant imaginatif et aussi quelqu'un qui a pensé son temps.
Venons d'entendre un extrait du troisième mouvement intermezzo de la symphonie numéro 1 d'Henri Dutilleux, interprété par l'Orchestre de Paris, dirigé par Daniel Barenboim, qui fut utilisé par Maurice Pialat comme bande-son de son adaptation de 1987 de Sous le soleil de Satan avec Gérard Depardieu et Sandrine Bonnaire. Est-ce que Georges Bernanos aurait aimé ce film, vous croyez, Maud Schmitt? C'est un peu une question... impossible à répondre, mais en tout cas, peut-être on peut en trouver des arguments, peut-être.
Je pense qu'il aurait aimé ce film, parce que c'est... Enfin, à mes yeux, c'est un film qui est très fidèle à l'esprit du roman. Oui, je pense qu'il aurait aimé ce film. Je ne sais pas tellement comment l'argumenter. Mais...
Il y a deux choses dont on a parlé. La rencontre avec le diable, hein, que vous avez bien commenté, c'est admirablement illustré.
Oui, tout à fait.
La scène aussi de la flagellation, admirablement tournée par Depardieu. Sandrine Bonnaire est une mouchette admirable. Donc il y a plusieurs choses qui rendent ce film incontestable. Après, il y a un énorme problème, qui est généralement le problème des athées quand ils s'emparent de la question de la foi, c'est que l'abbé Donissant fait un miracle à la fin du film.
Oui, tout à fait. Ah, alors ça, qu'il ne le fait pas.
Et parce
dans
que Pialat, ne croyant pas en Dieu, croit qu'un prêtre fait des miracles. Toute personne qui croit sérieusement en Dieu sait qu'il ne suffit pas de demander à faire des miracles pour les faire. Et c'est un contresens terrible. Mais c'est émouvant de penser qu'un athée croit que, en fait, les prêtres font des miracles. C'est émouvant d'une certaine manière.
Alors, Denison fait quand même un miracle.
Non, il ne ressuscite pas l'enfant.
Il y a ce miracle très discret dont personne d'autre que lui ne peut témoigner, qui est le don de clairvoyance dans les âmes. C'est un don qui lui a été donné, c'est un don surnaturel.
Dans le film de Piala, c'est pas carré.
Non, bien sûr.
Ça, c'est beaucoup moins cinématographique. Le don de clairvoyance dans les âmes.
Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé. À un moment, le journal d'un curé de campagne devait être tourné avec Jean-Louis Barrault. Et on a une lettre de Bernanos à Jean-Louis Barrault en disant « Je suis vraiment très heureux de cette perspective, vous allez être formidable. » Enfin, ça partait très bien, ça ne se fera pas. Alors effectivement, ça indique déjà la conception qu'il pouvait avoir. Sinon, on sait que Bernanos adorait le cinéma.
Bien sûr.
Il aimait beaucoup le cinéma et notamment le cinéma expressionniste allemand. Je suis à peu près sûr qu'il a vu Metropolis, puisqu'il y a des visions, notamment dans les années 30, qui semblent dictées par Metropolis.
Chaplin apparemment aussi.
Oui, alors Chaplin, il aime moyennement. Il y a des lignes assez assassines, mais je pense que l'expressionnisme allemand, qui est un univers ultra contrasté entre ombre et lumière, avec des figures de négatifs, les Caligari, la figure du docteur Mabuse, tout ça, et puis des figures de victimes ou d'hallucinés. Je pense qu'il y a toute une dimension expressionniste germanique chez Bernanos.
Et puis cette dernière œuvre, il faut pas l'oublier, Dialogue des Carmélites, que nous connaissons comme pièce de théâtre et comme opéra avec la musique de Poulenc, est un dialogue de film. Donc on lui commande ce travail comme dialogue de film, donc il s'engage, c'est son dernier travail, dans un travail cinématographique. Je pense qu'on est dans des temps héroïques du cinéma, c'est sous le pontificat de Pie XII d'ailleurs qui poussait les catholiques à faire du cinéma, ça va se poursuivre jusqu'à Bresson, on va poursuivre ce geste, et le cinéma de Pasolini illustre tout à fait ça, où les catholiques, qui ne sont pas des iconoclastes, mais qui sont au contraire iconodules et qui aiment les images, et Bernanos c'est encore, c'est une hérésie qu'il n'y a pas, étrangement c'est un peu en noir et blanc, mais c'est un homme de l'image. C'est un homme de l'image, il est vraiment du côté de l'icône et il voit le cinéma comme l'icône moderne.
Pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs.
Et pour revenir à cette scène absolument incroyable justement dans le film de Piala qui est celle de la rencontre avec le diable, là on voit bien assez magnifiquement, et ce sera peut-être notre conclusion, ce que c'est que ce mélange entre réalité extrêmement quotidienne et plan onirique dans lequel on n'est pas vraiment sûr en fait de ce qui se produit là.
Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il réussit dans le film à montrer ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire comment il fait ce chemin qu'il connaît très bien et il trouve le moyen de se perdre et il refait sans cesse le même chemin. Et en fait, sa trajectoire devient donc une espèce de spirale dont il ne réussit pas lui-même à sortir. Et au fur et à mesure que l'on avance dans ces cercles qui se superposent les uns aux autres, on quitte le plan du naturel pour entrer sur un tout autre plan qu'est le plan du surnaturel, où d'un seul coup, les dialogues eux-mêmes ne répondent plus à une logique qui est une logique psychologique, mais sont placés sur un tout autre plan et deviennent finalement un combat entre le bien et le mal. Et ça, Piala réussit, c'est vrai, à montrer comment l'on glisse imperceptiblement d'un plan à un autre, et ce qui est un défi cinématographique.
Merci beaucoup Maud Schmitt, merci François Angelier,
merci
Sébastien Lapac de nous avoir accompagnés dans cette émission consacrée à Sous le soleil de Satan de Georges Bernanos, réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec Pierrick Charles à la technique aujourd'hui. Un immense merci à Aurélie Marsay qui m'a aidé à la préparer. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour notre seconde station dans les romans qui ont changé le monde, consacrée au Quatuor d'Alexandrie de Laurence Durel. À demain.